globalement, tout le monde doit avoir l'impression d'être au bout du bout du monde. Ce n'est pas complètement faux, mais je pense qu'ici, on est surtout au centre de tout. On est au centre de la Cornouaille. Il faut imaginer que derrière vous, vous avez le pays glacique avec les montagnes noires. C'est un paradis pour le vélo. Sur votre droite, vous avez la baie de Douarnenez. Vous avez Plomodierne, le Ménézom, la presqu'île de Crozon. Derrière moi, vous avez le Cap Sizun, avec la pointe du Vent, la pointe du Rhin, le Rat de Sein, l'île de Sein. Un peu plus à votre gauche, vous avez la baie d'Audierne. Après, vous avez la Bigoudénie, avec les coiffes, là, et les ports de pêche. Et après, vous avez Concarneau, où on sera ce soir. En fait, on est dans un très beau pays. C'est pour ça qu'on est un peu au centre, ici, de la Cornouaille. On est un peu aussi au centre-ville. Donc, je vous invite à... C'est une très belle ville, Quimper. Autant Brest, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Brestois. C'est du béton des années 50. Vous avez une mairie stalinienne. Ici, c'est différent. Vous avez des pavés, des rues qui serpentent. Vous avez des maisons de la Renaissance bretonne. C'est pas du béton, mais c'est plutôt de la dentelle granitique, vous voyez. Et donc, je vous invite à aller vous promener. C'est la rue qui passe là, vous amène en plein centre. Vous avez la rue de Quéréon. Vous avez la place Terre-au-Duc. Vous avez les Halles, la place au Beurre, la place Saint-Corentin. Vous pouvez prendre un café face à la cathédrale. Donc, essayez de déambuler si vous avez un peu de temps. Et puis aujourd'hui aussi, on est au centre de la pneumologie. On a essayé de vous concocter un programme éclectique, assez varié, pour que tout le monde puisse y trouver un peu son topic. Et on a pris la crème de la crème des orateurs bretons, un peu le truc au beurre salé, là. Ouais, le caramel au beurre salé, là. De la pneumologie bretonne. Alors à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on dit aux Rennais de venir ? Rennes, c'est 1h15 de Paris, 2h15 d'ici, ils sont quasiment plus bretons. Puis je me suis dit, on va quand même faire un effort d'ouverture. Donc bon, j'allais aller, on leur dit de venir. Donc merci qu'ils soient là, ça me fait très plaisir. Je dois aussi, j'ai un petit mémo pour dire, il ne faut pas oublier de remercier. Hein. Donc, je remercie moi d'abord les orateurs, parce que tout le monde a répondu très rapidement, le CPAG, Hugues vous parlera un peu de ce que c'est le CPAG après moi. Il faut remercier également AS Connect avec Héloïse et Anne, qui sans elles ça ne marche pas ici, c'est elles qui ont fait toute l'organisation. Et il faut remercier également chaleureusement les sponsors avec les laboratoires, les prestataires, parce que sans eux il n'y a rien de tout ça. Et je pense que pour nous, c'est quand même une chance de pouvoir nous réunir pour faire avoir des topos de qualité. Le virtuel, c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est bien quand même d'avoir quand même des réunions en présentiel. Les présentations des orateurs, elles seront mises en ligne sur le site du CPAG. C'est un bon moyen de vous dire d'aller sur le site du CPAG et pour voir ce que c'est, peut-être vous inscrire et souscrire au CPAG. Un mail vous sera envoyé et vous aurez un lien avec un mot de passe sur lequel vous pourrez récupérer les topos qui sont gentiment mis à disposition par les orateurs. Vous avez aussi dans la pochette, comme toujours, un questionnaire de satisfaction et que vous pourrez remplir et vous pourrez en partant le mettre à l'accueil. Et pour ce soir, donc il faudra prendre le bus. On va à Concarneau, au Sable Blanc, c'est au bord de la mer, vraiment au pied de la plage. Et donc il y a un bus qui part de l'hôtel du centre-ville, comment il s'appelle déjà, l'Océania. Il y a un seul bus, enfin le bus ne se met que en face de l'hôtel Océania et non pas à côté de l'hôtel de la gare. Donc ceux qui sont près de la gare, il faut que vous veniez pour 18h45 à l'Océania. Et on part à 18h45. Voilà. Pour les personnes qui sont en voiture, c'est à 19h30 sur place. Et je crois que j'ai fait à peu près tout ce qui est logistique. Et je laisse la place à Hugues pour un petit mot pour vous parler du CPAG.
Je tiens à m'excuser auprès des Brestois, des Rennais. Le CPAG ne partage pas tout à fait tout ce qui a été dit auparavant et n'y prenez pas ombrage. Merci Romain tout d'abord. Merci à Romain et à l'équipe de Quimper d'organiser cette journée scientifique. Les journées scientifiques, elles sont annuelles. Je crois que c'est la première fois que ça a lieu à Quimper depuis la création du CPAG il y a plus de 30 ans. Quimper était quand même très actif il y a une vingtaine d'années. Je crois qu'il y a Jean-Jacques Larzul qui était très, très impliqué dans le CPAG. Le but de ces journées, c'est d'échanger ensemble, d'aller au plus près. Alors avant, on disait la province, après on disait les régions, la province, c'était maintenant on dit les territoires. En fait, c'est de se retrouver ensemble, de pouvoir discuter de manière informelle de ce qui nous préoccupe au quotidien. N'hésitez pas à adhérer, à parler autour de vous. C'est important pour nous d'essayer d'être le plus représentatif. N'hésitez pas aussi, si vous avez des idées, des suggestions d'études ou de choses qui ne vont pas. C'est un peu le but du collège, qui est une des composantes de la pneumologie, au même titre que les universitaires et les libéraux. Et ça a été créé et ça fonctionne comme ça depuis plus de 30 ans et ça marche bien. Un dernier petit mot pour remercier les partenaires de cette journée qui nous permettent de se retrouver ensemble. Et tu l'as dit, et je m'associe au remerciement à S-Connect, Anne Saillard et puis Héloïse Tonelot qui nous aide toujours avec un grand professionnalisme pour cette journée. Donc merci beaucoup et puis bonne journée scientifique et puis à très bientôt.
Bonjour à tous. Je suis donc infectiologue à l'hôpital de Quimper et je vais vous parler aujourd'hui de tularémie pulmonaire. J'ai appelé la présentation « Et si ce n'était pas un cancer ?» et vous allez comprendre un petit peu après pourquoi on l'a appelé comme ça. Et donc je remercie Romain de m'avoir invité à venir vous parler de tularémie aujourd'hui. Donc je vais commencer par quelques rappels sur la tularémie. Donc la tularémie est une zoonose due à un coccobacille gram négatif à croissance intracellulaire qui s'appelle Francisella tularensis. Sa première description a été faite en 1911 chez l'écureuil dans le comté de Tulare, en Californie, ça se trouve là, entre San Francisco et Los Angeles. Et la maladie humaine a été décrite dans les années 1920 par le docteur Edward Francis, qu'on voit ici avec son lapin dans son laboratoire. C'est une maladie qui est endémique dans tout l'hémisphère nord. En Europe, on la décrit principalement en Suède et en Finlande. Et il y a deux sous-espèces principales qui sont décrites, qui sont la sous-espèce tularensis ou tularémie de type A, qui est surtout décrite aux États-Unis et qui donne des formes sévères, et la sous-espèce olarctica ou tularémie de type B, qu'on retrouve en Europe et qui, elle, donne des formes bénignes. Donc c'est une maladie principalement animale, l'homme est un hôte accidentel, il n'y a pas de transmission interhumaine décrite et ça touche de nombreuses espèces animales, dont principalement les lagomorphes et les rongeurs. C'est pour ça que historiquement on l'appelait la maladie des chasseurs ou la maladie du lièvre. Elle peut être aussi transmise par de nombreux vecteurs arthropodes comme les tiques, les moustiques, les mouches. C'est une bactérie qui est très résistante dans l'environnement. Elle peut survivre des semaines dans l'eau, dans les sols, les carcasses animales. Il y a plusieurs modes de transmission qui ont été décrites, soit par contact direct avec un animal infecté, par piqûre d'arthropode, par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, et aussi par inhalation d'aérosols contaminés, par des déjections animales par exemple. Et donc ces différents modes de transmission se traduisent par différentes formes cliniques, les formes ulcéro-ganglionnaires et ganglionnaires par inoculation cutanée, les formes oculo-ganglionnaires par inoculation conjonctivale, les formes oropharyngées par ingestion, les formes pulmonaires par inhalation ou par voie hématogène, et les formes typhoïdiques. Donc voilà quelques images prises à Quimper de formes ulcéro-ganglionnaires avec des escarres d'inoculation sur les photos de gauche, et puis une volumineuse adénopathie axillaire chez un de nos patients. La présentation clinique de la tularémie, donc en général, c'est une maladie à incubation courte, 3 à 5 jours entre l'inoculation et le début des symptômes, avec un début généralement brutal, un tableau aigu pseudo-grippal avec de la fièvre, des frissons, des myalgies, une asthénie, des céphalées, des sueurs, donc des choses assez aspécifiques, suivies de différentes manifestations selon les formes cliniques. Les formes graves sont décrites uniquement aux États-Unis avec la sous-espèce tularensis, qui peuvent être responsables de chocs septiques, de tableaux de CIVD, de détresse respiratoire, de défaillance multiviscérale, avec une mortalité élevée jusqu'à 30-60% en absence de traitement. Et cette bactérie, c'est une infection dont la dose infectante est très faible, moins de 10 bactéries sont nécessaires pour entraîner un tableau clinique. Et cette bactérie est classée de ce fait comme un agent potentiel du bioterrorisme, surtout qu'une transmission par aérosolisation ou contamination de l'eau est possible. Ça explique pourquoi c'est une maladie qui a déclaration obligatoire, bien qu'on n'ait pas la sous-espèce tularensis en Europe et que finalement la sous-espèce Olarctica n'a pas ce potentiel malveillant. Pour ce qui est du diagnostic, c'est une bactérie qui est cultivable. On peut la mettre en culture dans des laboratoires de type P3. C'est une bactérie à croissance lente, donc qui nécessite une culture prolongée jusqu'à 10 jours. D'expérience, on a l'impression que dans les hémocultures, elles sortent plutôt autour de 4-5 jours. L'identification est possible par spectromètre de masse de type MALDI-TOF avec une base particulière de données qui est la base Biotox, qu'on n'a pas forcément toujours dans tous les laboratoires de routine. Et donc la découverte se fait le plus souvent de façon fortuite sur les hémocultures. La sérologie est aussi un moyen de diagnostic indirect très précieux pour la tularémie. Le CNR de la tularémie se trouve à Grenoble et toutes les sérologies de dépistage qui sont positives en laboratoire privé ou dans les hôpitaux généraux sont envoyées ensuite à Grenoble pour confirmation. Les anticorps apparaissent en général 1 à 2 semaines après le début des symptômes, maximum 3 à 4 semaines. C'est une sérologie qui a une très bonne spécificité de 98%, il y a très peu de réactions croisées. Et donc la sérologie est considérée comme positive quand on a un titre supérieur à 160 ou qu'on observe une séroconversion ou une augmentation du titre des anticorps supérieur à 4 sur 2 sérums prélevés à 2 semaines d'intervalle. La PCR nous est aussi d'une aide précieuse avec une sensibilité qui est aussi très bonne de 80-90%. La positivité est plus précoce que la sérologie. Et puis, ces PCR, elles sont réalisables sur liquide de lavage bronchoalvéolaire, sur biopsie de nodules, biopsie ganglionnaire et sur les écouvillons d'escarres d'inoculation. Pour ce qui est du traitement de cette bactérie, les antibiotiques habituellement actifs sont les aminosides, les cyclines, les fluoroquinolones. On privilégie dans les fluoroquinolones la ciprofloxacine et la levofloxacine. Dans une étude de notre collègue Yvan Caspar, qui a été publiée en 2018, ils avaient analysé 59 souches de Francisella tularensis de la sous-espèce Olarctica et aucune résistance n'avait été décrite. Dans les formes sévères aux États-Unis, ils utilisent surtout les aminosides, la gentamicine et la streptomycine. Et dans les formes modérées qu'on observe sous nos latitudes, on utilise plutôt la ciprofloxacine ou la doxycycline. La durée habituelle du traitement est de 14 à 21 jours. Quelques échecs et rechutes ont été rapportés, possiblement plus fréquentes avec la doxycycline qu'avec les fluoroquinolones. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur la tularémie, la tularémie est à déclaration obligatoire en France depuis 2002. Et donc, l'Institut de veille sanitaire nous donnait dans sa première publication sur les données de 2002 à 2012, il y avait 430 cas déclarés en France, avec finalement une incidence à l'époque assez faible en Bretagne, et puis aussi très certainement sous-estimée au niveau national, parce que comme c'est une maladie qui peut potentiellement guérir toute seule, il y a plein de diagnostics qui ne sont jamais faits. Donc cette étude est une étude publiée par le CNR des tularémies à Grenoble. Ils avaient étudié les cas de tularémie diagnostiqués au CNR entre 2006 et 2010, donc il y avait 101 cas diagnostiqués sur cette période de 4 ans, 55 hommes, 46 femmes, un seul décès, c'était un homme de 95 ans qui avait une forme typhoïdique. Tous les patients avaient été traités, c'était majoritairement des formes ganglionnaires et oropharyngées, et il y avait seulement 10 pneumonies dans cette cohorte. Cette étude était une étude publiée par le CNR des Rickettsii de Marseille, qui font aussi énormément de PCR tularémie sur tous les ganglions qu'ils reçoivent. Et donc sur la période 2008-2017, ils ont eu 177 cas de tularémie diagnostiqués à Marseille, 123 hommes, 54 femmes, pas de décès, 172 patients avaient été traités. C'était là encore surtout des formes ganglionnaires et seulement 18% de formes pulmonaires. Et ces formes pulmonaires étaient surtout des cas qui avaient eu lieu en Bretagne. Cette fois-ci, on commence déjà dans la période à avoir des cas par chez nous. Et donc, à Quimper, la tularémie, quelques chiffres. Sur la période 2013-2024, on a eu 137 cas de tularémie rien qu'à Quimper, 105 hommes, 31 femmes, pas de décès. Il y a seulement 72% des patients qui ont été traités, donc il y en a 30% qui guérissent spontanément. Et ce qui fait la particularité de notre épidémie, c'est que c'est surtout des formes pulmonaires. 55% de nos tularémies sont des formes pulmonaires, probablement aussi parce que nos pneumologues la recherchent de façon très active. On a aussi des formes ulcéro-ganglionnaires, bien sûr. Concernant l'évolution en France ces dernières années, donc ça c'est des diapos que j'ai piqués à une collègue qui a fait une présentation au JNI en 2021, donc on voit que ces dernières années il y a une augmentation d'incidence, en particulier depuis 2018, donc une augmentation des cas de tularémie sur toute la France, et puis on voit qu'au niveau régional il y a un changement au niveau de la déclaration des cas avec une répartition qui est différente. Sur la période 2012-2017, on avait moins de cas en Bretagne et maintenant c'est surtout par chez nous que l'épidémie sévit. Et on voit aussi que sur la période 2012-2017 comparée à 2018-2021, il y a une forte augmentation de l'incidence des tularémies pulmonaires. Et donc là aussi, on observe pareil quand on compare la Bretagne avec le reste de la France. Une augmentation, plus de formes pulmonaires et médiastinales en Bretagne que le reste de la France, puisqu'on a 51% de formes pulmonaires chez nous, contre 18% sur le reste du territoire. Et puis l'autre particularité, c'est que dans les facteurs d'exposition déclarés dans les déclarations obligatoires, il y a plus de contacts déclarés des patients avec les rongeurs en Bretagne, 37% contre 25% pour le reste du territoire, et moins d'exposition par piqûre de tiques chez les chasseurs ou contact avec les lièvres qui sont plus pourvoyeurs de formes ganglionnaires. Donc, je vais vous parler donc, de façon un petit peu plus précise des tularémies pulmonaires. Donc, au niveau de la présentation clinique, la tularémie pulmonaire elle se présente par des adénopathies médiastinales et hilaires et des nodules pulmonaires qui peuvent même parfois être de véritables masses. Donc des nodules, des masses pulmonaires, des adénopathies, ça ressemble à du cancer, mais ce n'est pas du cancer. Donc, on a publié en 2020 une série de cas de 28 patients traités à Quimper pour des tularémies pulmonaires qui avaient tous eu des TEP scanners. Et les nucléaristes évoquaient pour 15 de ces 28 patients majoritairement des diagnostics de cancer et de lymphome. Deux patients avaient même été présentés en RCP d'oncologie thoracique avec des annonces de cancer qui avaient été amorcées. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces 28 cas qu'on a étudiés de façon un petit peu plus approfondie. Donc, sur ces 28 cas, il y en a 17 qui étaient des cas certains, donc c'est-à-dire que les diagnostics avaient été faits soit par PCR, soit par séroconversion, ou avec une augmentation significative de titres des anticorps sur deux sérologies à 2 semaines d'intervalle. Les 11 autres cas étaient probables, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain temps, on a arrêté de faire des sérologies de contrôle. Quand le tableau était typique et que la sérologie était positive, les patients ils guérissent assez spontanément ou avec 2 semaines de traitement. Et donc, on a arrêté de faire des sérologies pour confirmer absolument que c'était bien ça. Donc ces patients, on en a finalement étudié que 27, puisqu'il y a un des patients qui avait refusé de participer à l'étude. Leur âge médian était de 60 ans, avec un sex ratio qui était de 4,4, avec une majorité d'hommes par rapport aux femmes. Cliniquement, 85% des patients avaient présenté de la fièvre. Les autres symptômes étaient assez peu spécifiques, des arthralgies, des sueurs, des céphalées. Et finalement, les signes fonctionnels respiratoires n'étaient pas systématiques, avec 22% des patients qui avaient présenté une toux et 11% une dyspnée. Quand on regardait leurs facteurs d'exposition, tous les patients avaient un contact assez important avec le milieu extérieur, beaucoup d'agriculteurs, de paysagistes, de gens qui faisaient du jardinage, des activités de plein air, de la chasse. Des gens qui faisaient du VTT, des treks, des choses comme ça. 33% déclaraient, se rappelaient avoir eu un contact avec un rongeur, soit des contacts directs ou des contacts avec des déjections. C'est beaucoup de patients qui ont des poulaillers. Quand on nettoie le poulailler, souvent, il y a pas mal de déjections. Et quand on balaye, il y a des poussières qu'on est susceptible d'inhaler. Aucun cas groupé dans cette série, mais ces dernières années, il y a une famille qu'on a suivie où 4 membres de la famille ont fait la tularémie à plusieurs années d'intervalle. On a eu le père, les enfants, la grand-mère, successivement sur quelques années. Donc, au niveau de la présentation radiologique, donc, tous les patients avaient des adénopathies médiastinales et hilaires, avec pour la plupart des lésions pulmonaires associées. Donc 20 des 27 patients avaient des nodules uniques ou multiples, ça dépend. La taille médiane des nodules était 18 mm, mais certains avaient de véritables masses, puisque le nodule le plus important faisait quand même 7 cm. La localisation principale de ces nodules était au lobe supérieur droit. 50% des nodules étaient localisés dans ce lobe. Et 6 patients avaient aussi présenté des épanchements pleuraux associés. Le SUV médian est très important. Donc on voit que c'était des images qui étaient très hyperfixantes au TEP scanner, avec un SUV médian à 12,9 et au maximum jusqu'à 25. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les nucléaristes évoquaient en première intention des diagnostics de malignité, avec 13 cas où on suspectait un cancer pulmonaire et 2 cas où c'était un diagnostic de lymphome qui avait été avancé. Sur ces TEP scanners, il n'y avait aucune localisation extrathoracique, et ça plaide plutôt en faveur d'une contamination par inhalation que par voie hématogène. Donc, 16 de ces patients avaient eu des biopsies ou des cytoponctions ganglionnaires. Dans 3 cas, on avait retrouvé du granulome épithélio-gigantocellulaire. Dans 8 cas, des adénites non spécifiques, et dans 30%, ça n'avait pas été contributif. Et donc, pour l'anecdote, je vais vous parler d'un cas clinique. C'était un homme de 39 ans. Qui avait été hospitalisé pour pleurésie gauche et qui avait 5 nodules pulmonaires sur son TEP scanner. Il avait eu une ponction pleurale, un LBA, une biopsie sous scanner qui n'avait pas permis d'apporter de diagnostic. Il a fini par avoir une biopsie chirurgicale d'un de ses nodules, qui a retrouvé du granulome épithélio-gigantocellulaire avec de la nécrose caséeuse. Les PCR-BK et les cultures mycobactériennes sont restées négatives, mais faute de diagnostic, il a eu un traitement antituberculeux d'épreuve empirique pendant 6 mois. Et l'évolution a été favorable avec une normalisation de son TEP scanner. Donc voilà son TEP scanner au départ, qui était quand même assez impressionnant. Et 2 ans plus tard, il est revu au CLAT, et on se dit, comme on est en pleine épidémie de tularémie, et si c'était une tularémie depuis le début ? Et donc, il a eu une sérologie qui s'est avérée positive, et on a fait déparaffiner son bloc de biopsie de l'époque, et la PCR Francisella tularensis était positive. Donc c'était bien une tularémie. Donc il faut savoir penser à la tularémie aussi en diagnostic différentiel de la tuberculose devant des granulomes ganglionnaires. Pour ce qui est du traitement, je ne me suis pas contentée des 28 cas, je vous ai mis le traitement des 76 cas qu'il y a eu sur Quimper depuis le début de l'épidémie. Donc sur les 76 patients diagnostiqués pour une tularémie pulmonaire, 53 ont été traités. Majoritairement par doxycycline, 66% des patients, les autres par ciprofloxacine, et 23 patients, donc 30%, n'ont pas reçu de traitement et ont guéri spontanément. Finalement, on a l'impression que les patients qu'on traite, c'est ceux qui soit sont encore fébriles au moment du diagnostic ou qui ont vraiment des adénopathies florides, et parfois le diagnostic il est fait de façon rétrospective quand les gens sont déjà guéris. Et donc, si on fait la comparaison entre les 2 sous-espèces de tularémie, on voit bien que la sous-espèce Olarctica qu'on a chez nous, c'est 30% de guérison sans traitement, alors que sur la sous-espèce tularensis présente aux États-Unis, c'est 30% de mortalité sans traitement. Donc, c'est vraiment pas les mêmes bactéries. Une petite digression pour vous parler d'immunophénotypage lymphocytaire. Donc ça, c'est un cas clinique qui nous a été apporté par un de nos collègues hématologues biologistes de l'hôpital, donc sur une patiente de 33 ans qui avait consulté aux urgences pour une douleur thoracique et de la fièvre. Elle a bénéficié d'un angioscanner thoracique pour éliminer une embolie pulmonaire qu'elle n'avait pas. Et sur l'angioscanner, on lui trouve une masse sous-carénaire périœsophagienne. Elle a un TEP scanner dans la foulée qui confirme qu'elle a bien une masse de 45 mm qui est très hypermétabolique avec un SUV à 24. Et puis elle a plusieurs petites adénopathies médiastinales associées. Donc on suspecte forcément un lymphome. Elle a une biopsie ganglionnaire qui ne retrouve pas d'argument phénotypique pour un lymphome. Et elle a ensuite un immunophénotypage lymphocytaire sanguin. Sur cet immunophénotypage lymphocytaire, le docteur Bertrand, notre collègue biologiste, retrouve un excès de lymphocytes T gamma delta supérieur à 15%. A priori, moi j'y connais rien, mais il nous explique que c'est quelque chose d'assez peu fréquent pour les hématologues du labo. Et donc, il refait un petit peu de biblio pour. Il nous réexplique un petit peu dans quelles circonstances on peut retrouver cet excès de lymphocytes T gamma delta. Donc, on peut retrouver dans pas mal de situations assez variées, des infections bactériennes, virales, parasitaires, des maladies auto-immunes, et aussi dans les cancers et certains types de lymphomes. Et donc, sur cet argument, il nous dit faites une sérologie tularémie, et elle était positive. Donc, c'est grâce au labo biologiste qu'on a fait le diagnostic de tularémie pour cette patiente, avec une sérologie qui a bien augmenté sur les 2 sérologies de contrôle et qui a guéri sous traitement avec une normalisation de son TEP scanner. Donc là-dessus, il a refait une petite étude en local avec toutes les immunophénotypages qu'il avait pu faire sur les dernières années, et donc avec les données de la littérature qui étaient aussi disponibles, effectivement, il semble que la présence de lymphocytes gamma-delta, supérieure à 10% environ, est fréquemment associée à la tularémie. Donc, en cas de découverte fortuite au laboratoire d'hématologie d'un excès de lymphocytes gamma-delta, il faut savoir évoquer ce diagnostic, en plus des diagnostics de lymphome. Et en cas de suspicion de tularémie, c'est un argument qui peut être en faveur du diagnostic. On a la réponse très rapidement, en 24 heures, c'est plus rapide que la sérologie. C'est un examen qui est disponible dans tous les centres hospitaliers. Et par contre, il nous a bien expliqué qu'il fallait préciser sur la demande de rechercher des lymphocytes T, CD4-, CD8-, parce qu'a priori, c'est des types de lymphocytes qui n'intéressent normalement pas les hématologues biologistes. Et deuxième petite aparté, pour vous parler d'érythème noueux, là aussi, il faut savoir penser à la tularémie. Donc ça, c'est des photos d'une patiente que j'ai vue récemment en consultation. Et je vous présentais deux petits cas cliniques. Donc c'est une patiente de 50 ans qui n'avait pas d'antécédent particulier, qui a été hospitalisée le 12 mars dernier pour dyspnée, toux et pic de fièvre, avec un érythème noueux qui apparaît en cours de suivi. Elle a une radio pulmonaire par son médecin traitant en ville qui retrouve une opacité périhilaire gauche à la radio. Et à l'interrogatoire, quand elle arrive, elle nous dit qu'elle a fait un syndrome grippal 3 semaines avant, où elle a passé une semaine au lit, elle n'était pas très bien, et depuis, elle continue à avoir des pics de fièvre et une toux. On lui fait un scanner, donc on confirme effectivement qu'il y a une masse hilaire à gauche avec plusieurs adénopathies médiastinales. Le radiologue suspecte une lésion tumorale jusqu'à preuve du contraire. Elle a sa fibroscopie le lendemain. Les biopsies bronchiques ne vont pas retrouver grand-chose de particulier, un remaniement inflammatoire aspécifique. Et la PCR Francisella tularensis a été positive sur la biopsie bronchique et sur le liquide de lavage broncho-alvéolaire. Elle a une sérologie aussi qui est positive. Elle a été traitée par ciprofloxacine pendant 14 jours. Et quand on l'a revue en consultation, donc les nouures ont progressivement régressé, la toux a disparu. Elle a gardé quand même une asthénie et un essoufflement pendant quelques semaines, mais qui ont été aussi résolutifs. Sur le scanner de contrôle, à la fin du mois d'avril, il n'y avait quasiment plus rien. Donc aussi, devant l'érythème noueux, savoir évoquer la tularémie. Cette autre patiente, 79 ans, qui n'avait pas d'antécédent non plus, que j'ai vue en consultation pareil pour un érythème noueux, là, elle est apyrétique, elle n'a aucun signe fonctionnel respiratoire. Donc on n'avait pas particulièrement l'intention de chercher quelque chose de pulmonaire. C'est une dame qui est très exposée au milieu extérieur. Elle a un grand jardin qu'elle entretient tous les jours, même à 79 ans, elle fait encore de la débroussailleuse. Et à l'interrogatoire, elle me dit qu'elle a fait le Covid il y a un mois, qu'elle a eu une semaine de fièvre, de toux, qu'elle n'était pas très en forme, mais qu'elle n'a pas consulté son médecin traitant, ça a guéri tout seul. Et donc à la consultation, elle a des nouures comme ça, un petit peu sur les deux jambes, douloureuses. À la radio pulmonaire, on voit un élargissement du il à droite, compatible avec la présence d'anénopathie hilaire, mais la patiente n'a pas voulu faire le scanner parce qu'elle était claustrophobe. Ah. Donc finalement, la sérologie tularémie s'avère positive et elle avait un excès de lymphocytes gamma-delta à l'immunophénotypage lymphocytaire à 20,6%. Et là, pareil, on l'a traitée par doxycycline et les lésions ont régressé assez rapidement. Donc, pour conclure, la tularémie pulmonaire est une pathologie rare mais probablement sous-diagnostiquée. Il faut savoir y penser devant la présence de masses pulmonaires d'adénopathie médiastinale. Souvent, quand vous les voyez en pneumologie, c'est après la phase aiguë, quand les patients sont apyrétiques et donc finalement, ils arrivent avec un scanner compatible avec du cancer et donc c'est la première chose à laquelle on pense. Il faut savoir interroger les patients sur les antécédents de fièvre dans les semaines précédentes. Et donc, il y en a comme ça quelques-uns qui nous disent « Ah oui, j'ai fait le Covid ou la grippe il y a quelques semaines. » Savoir y penser sur les granulomes ganglionnaires. Et puis, maintenant aussi sur les tableaux d'érythème noueux. Donc, la sérologie est d'une aide précieuse. Et puis, ça peut éviter de faire des examens complémentaires invasifs pour une partie des patients. Et puis, la PCR qu'il faut avoir assez facile aussi sur LBA, sur les biopsies de nodules pulmonaires ou sur les biopsies ganglionnaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.